Radio J. Radio J.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Radio J.
Bonjour à tous. Chodesh Tov et Hanouka Sameach. Merci de nous rejoindre en direct dans le grand journal. Et meilleurs vœux, on est ensemble en direct pendant une heure, mercredi 1er janvier. Radio J, les 14h. La politique avec Arnaud Benedetti sur les vœux du président Macron, le zoom sur la crise gouvernementale en Israël. Mon invité, Ilan Sialom, spécialiste en cybersécurité. Nous sommes le mercredi 1er janvier, premier TVET 5785. 100 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza. Ne les oublions pas, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr ainsi que sur notre application gratuite. L'émission est également à suivre en vidéo sur nos pages YouTube, X et Facebook. Tout de suite, les infos avec Eva Soto. Bonjour Eva et meilleurs vœux.
Bonjour Steve, meilleurs vœux.
À l'aide de l'actualité, Benjamin Netanyahu, épuisé après avoir quitté l'hôpital hier contre l'avis de ses médecins, il ne pourra pas sortir aujourd'hui comme initialement prévu.
Il a quitté son lit alors qu'il venait de se faire opérer de la prostate pour se rendre à la Knesset. Le Premier ministre a tenu à faire passer un texte relatif à la loi du budget de l'État. Après la décision d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale de droite nationaliste qui a annoncé qu'il voterait contre le texte. Un texte donc adopté de justesse par 59 voix contre 58, ce qui a suscité de nombreuses réactions à Jérusalem, récit d'Olivier Granilic.
Le député du Likoud, Eli Dalal, a écrit « Ce qu'il s'est passé aujourd'hui à la Knesset est une honte. Sortir le Premier ministre de son lit d'hôpital alors qu'il se remet d'une opération et faire venir un député endeuillé est un scandale. Il faut mettre fin à cette attitude puérile et limogée. Ben-Gvir, c'est ce qu'a écrit ce député du Likoud. Et puis le ministre Ben-Gvir lui-même dénie toute responsabilité dans ce spectacle et accuse le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, d'avoir refusé de discuter avec lui, ce qui a, selon lui, obligé le Premier ministre à se déplacer.
Notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic. De son côté, le chef de l'opposition, Yair Lapid, qualifie Itamar Ben-Gvir de clown TikTok et le gouvernement d'extrémiste et dérangé. Un gouvernement qui, selon le leader de Yesh Atid, serait donc sur le point de tomber.
Sur le terrain, au 453e jour de guerre, l'armée israélienne a détruit une usine de fabrication de roquettes.
Des roquettes de moyenne et de longue portée ainsi que d'autres armes retrouvées sur place. La découverte a été faite par des réservistes de la brigade Kiryati qui opère à Rafah sous la division de Gaza depuis un mois. Alors qu'à minuit pile, le Hamas a attaqué Israël, les deux roquettes tirées ont déclenché les sirènes d'alerte dans la région du Negev occidental. L'une a été interceptée et l'autre est tombée sur une zone inhabité. Il n'y a pas eu de victime.
L'armée israélienne et le Shin Bet qui ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas.
Celui qui a dirigé l'infiltration dans le kibbutz de Nir Oz lors des attaques du 7 octobre et plusieurs autres aussi contre des forces israéliennes à Gaza. Adi Al-Sabah, c'est son nom, a été visé lors d'une frappe à Khan Younes. L'élimination d'un commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, affirment les responsables du kibbutz Nir Oz. Par ailleurs, 127 Gazaouis, pour la plupart des enfants, ont quitté hier la bande de Gaza avec leur accompagnateur pour se faire soigner aux Émirats Arabes Unis. Le département israélien en charge de l'aide humanitaire à Gaza a permis le départ de 1055 patients et leurs soignants vers 13 pays différents pour recevoir des soins médicaux ces derniers mois.
Sur le plan diplomatique à présent, les discussions pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza sont toujours dans l'impasse.
C'est ce qu'affirment des médiateurs arabes. Selon le Wall Street Journal, ils estiment même peu probable qu'un accord puisse être conclu avant la fin de l'administration Biden. Ils s'attendent à un retour aux négociations après l'entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier. Eric Seton, médecin, lieutenant-colonel de Tsahal, au micro d'Ilana Ferradian.
Alors, pour Israël, les négociations pour libérer les otages, ça reste une priorité absolue. Mais chaque effort qui est entrepris, soit par des canaux diplomatiques, des intermédiaires ou des opérations de renseignement, est important. Seulement, je crois qu'il... Personnellement, je trouve que le Hamas utilise les otages plutôt comme un levier politique pour essayer d'influencer la société israélienne et non pas avec une véritable volonté de libérer les otages.
Eric Sauton, médecin, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal, le président américain élu Donald Trump, lui, a réitéré hier soir ses menaces contre les groupes terroristes palestiniens. Je vais le dire ainsi, il ferait mieux de laisser les otages revenir bientôt, a-t-il affirmé.
Les États-Unis ont eu lieu, une attaque à la voiture Bélier dans la nuit du Nouvel An. Ça s'est passé, Eva, à la Nouvelle-Orléans.
Lourd bilan, au moins 10 morts et une trentaine de blessés. Ça a eu lieu sur Bourbon Street, une artère au cœur du célèbre quartier français de la Nouvelle-Orléans. Selon des témoins sur place, un véhicule a percuté à grande vitesse un groupe de personnes avant que le conducteur armé ne sorte pour tirer. Les policiers ont riposté. Un large périmètre de sécurité autour de la zone touchée a été mis en place.
Dans le reste de l'actualité internationale du jour, la Russie a lancé 111 drones sur l'Ukraine. Pour le jour de l'an, 63 ont été abattus et 46 ont manqué leur cible, et ce grâce à des mesures de brouillage électronique.
Une personne a été tuée, 7 autres blessés. 2 femmes enceintes figurent parmi ces blessés. Selon le président Zelensky, l'Ukraine devra lutter en 2025 sur le champ de bataille, mais aussi à la table des négociations pour mettre fin après 3 années d'invasion russe. L'armée russe qui a avancé de près de 4000 km cette année, cette fois plus qu'en 2023. C'est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron, lors de ses vœux hier soir, a appelé à un réveil européen.
Les derniers événements en Syrie, la manipulation des élections en Moldavie, en Géorgie, en Roumanie, les attentats terroristes en Europe et dans notre voisinage montrent combien notre sécurité et le bon fonctionnement de nos démocraties ne sont jamais acquis. C'est pourquoi l'Europe ne peut plus déléguer à d'autres puissances sa sécurité et sa défense. En 2025, la France devra continuer d'investir pour son réarmement militaire, pour garantir notre souveraineté, la protection de nos intérêts et la sécurité de nos compatriotes.
Le président Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, qui sur le plan national a fait son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale.
Oui, lors de ses mêmes vœux hier, le chef de l'État a reconnu que la dissolution avait semé division et instabilité avant d'appeler au ressaisissement collectif face à la grave crise politique actuelle. Mais selon Frédéric Dabi, directeur général d'IFOP Opinion, les Français se désintéressent de la politique.
Entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou, il y a une vraie différence et plus de poids lourds dans le gouvernement Bayrou, plus d'incarnation, mais la vraie, Clément Morin l'a très bien dit, le vrai point commun, c'est que c'est la même assise parlementaire, oui, minoritaire, qui fait que 2/3 des Français, en cas d'IFOP JDD, ont intériorisé que ce gouvernement risquerait d'être touché par une motion de censure. C'était 3/4 pour le gouvernement Barnier.
Frédéric Dabi, directeur général d'IFOP Opinion, ce matin sur France Inter.
Antisémitisme, un drapeau israélien brûlé aux îles Canaries avant un match de l'Hapoël Tel Aviv.
Les médias locaux ont qualifié ce geste de protestation contre l'occupation et le génocide que subit le peuple palestinien. Demain, la 13e journée de l'Eurocup oppose le Hapoël Tel Aviv à Grande Canaria. Les tensions se cristallisent autour des supporters israéliens qualifiés de hooligans. Les opposants à la tenue du match parlent de sionistes nazis qu'ils ne laisseront pas semer le chaos comme à Amsterdam, alors qu'aux Pays-Bas, des Juifs avaient été pourchassés et traqués dans les rues.
Feu d'artifice et festivités pour l'année civile 2025, la Polynésie a basculé à son tour.
Et les derniers territoires de la planète à franchir le cap de la nouvelle année sont les îles américaines inhabitées de Baker et Howland dans le Pacifique. Ils sont passés à l'année 2025, il y a un peu plus d'une heure à minuit. Là-bas, il était 13h à Paris. Le premier pays à passer le cap, ça a été la Nouvelle-Zélande.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouvera d'ici 20 minutes pour le rappel des titres à suivre. La politique.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
En raison de l'adoption de la motion de censure, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement.
Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté.
Je dirais pas qu'on va censurer a priori, mais je commence à avoir des a priori de censure.
Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème. C'est une nouvelle élection présidentielle.
La politique avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud et meilleurs vœux.
Bonjour Steve, meilleurs vœux à vous et à vos auditeurs.
Merci de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, que retenez-vous des vœux d'Emmanuel Macron hier soir, dont on a écouté un extrait à l'instant? Vœux innovants sur la forme, au moins dans leurs premiers instants, mais surtout sur le fond, avec ce mea culpa inédit et presque inattendu du président de la République.
Ah ben, vous avez tout dit, Steve. En effet, c'était des vœux qui se voulaient originaux, avec un petit clip de 2 minutes, avec la voix off du président, résumant les grandes réussites françaises de 2024, notamment les Jeux Olympiques ou la reconstruction de Notre-Dame, mais aussi des vœux qui se voulaient des vœux presque de contrition, en tout cas d'excuses d'une certaine manière, alors relative quand même, sur une dissolution dont le président de la République a reconnu qu'elle n'avait pas finalement atteint l'objectif qu'il lui avait assigné, c'est-à-dire, on s'en souvient au mois de juin dernier, un objectif de clarification de notre vie politique et de notre vie parlementaire. Il a dit qu'il prenait sa part de responsabilité, sa part, ça veut dire qu'il considère qu'il n'est pas le seul responsable. Il n'a pas tout à fait tort, en l'occurrence, ce sont les Français qui aussi, d'une certaine façon, ont envoyé cette Assemblée nationale tripartite au mois de juillet dernier. Mais manifestement, le président de la République a aussi voulu, comme s'il voulait faire un peu de teasing, annoncer des initiatives futures pour 2025 en disant qu'il consulterait les Français, sans en dire trop d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets. Des vœux plus courts que d'habitude, d'ailleurs, je crois, 10 minutes ou 11 minutes, ce qui sont les vœux les plus courts du président de la République depuis 8 ans. Des vœux qui voulaient à la fois, comme l'exercice l'impose d'une certaine manière, retracer le bilan de l'année passée.
C'est encore un exercice, avant de revenir sur le détail, notamment sur la question des référendums éventuels. C'est un exercice qui est toujours écouté attentivement par les Français.
Il est écouté parce que les Français, avant de réveillonner, écoutent très souvent la parole du chef de l'État. Mais force est de constater que ces vœux ont très peu d'impact sur la suite de notre vie politique. Si vous voulez, l'année dernière, quel était l'objectif en 2024 ? Il faut toujours les comparer d'une année sur l'autre, c'est là qu'on a les enseignements les plus riches. L'année dernière, il s'agissait de savoir comment il allait relancer son mandat avec une Assemblée nationale ne disposant que d'une majorité relative déjà à l'époque. Aujourd'hui, finalement, la problématique qui est la sienne, c'est comment il arrive à finir ce quinquennat, qui est un quinquennat quand même particulièrement compliqué. Donc il a essayé de tracer un certain nombre de lignes directrices qui restent à ce stade quand même, force est de le constater, assez floues.
Alors on le disait, Arnaud, le chef de l'État a semblé hier soir ouvrir la porte à d'éventuels référendums en 2025. Sur quel sujet déterminant, pour reprendre ce terme d'Emmanuel Macron, sur quel sujet pourrait-il redonner la parole aux Français dans les prochains mois ?
Vous savez, l'outil référendaire, tel qu'il a été pensé par ceux qui l'ont introduit dans la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire notamment le général de Gaulle, c'est un outil qui vise aussi d'une certaine manière à mesurer à un moment donné la proximité de la relation du chef de l'État, de l'exécutif avec le peuple français. Donc il faut choisir des sujets qui sont des sujets qui vont mobiliser fortement les électrices et les électeurs et qui vont envoyer des signaux qui sont des signaux forts. Or aujourd'hui, quand vous regardez finalement les sujets principaux sur lesquels les Français aimeraient être consulté. Il y en a deux, principalement. Il y a celui des retraites, hein, où les études d'opinion ont montré, notamment au moment du mouvement des retraites, que les Français souhaitaient être consultés par référendum. Mais on sait très bien que le président de la République et que, finalement, l'assise parlementaire sur laquelle il a appuyé son gouvernement ne voudra pas le faire pour des tas de raisons, notamment pour des raisons liées à la contrainte budgétaire. L'autre sujet, c'est le sujet migratoire. Mais le sujet migratoire, nombre de constitutionnalistes vous expliqueront que aujourd'hui, tel que le champ référendaire existe dans notre constitution, il ne permet pas ou il ne permettrait pas. Quoi,
qu'il y a donc il faudrait modifier la constitution avant cela.
Il faudrait modifier la constitution. Alors peut-être on peut éventuellement penser, je veux dire, à une modification de la constitution qui permettrait ensuite de pouvoir interroger les Français, par exemple, sur la question migratoire. Voilà, là vous avez des sujets saillants, des sujets qui intéressent les Français, des enjeux qui sont particulièrement d'ailleurs.
Sous quelle forme, par exemple, si on prend ce deuxième champ migratoire ?
Poser une question sur, par exemple, le droit du sol, éventuellement, potentiellement, sur la façon dont on conçoit sa politique migratoire dans la relation à l'Union européenne. Est-ce que faut-il, par exemple, renverser la hiérarchie des normes ? Il y a des questions qui peuvent éventuellement être posées, même si elles sont très compliquées, mais en l'occurrence, ces questions peuvent en tout cas mobiliser clairement l'opinion publique. Mais on peut penser aujourd'hui qu'à ce stade, ce n'est pas la volonté du président de la République, ce n'est certainement pas son intérêt. Alors, quel référendum pour cette année 2025? D'abord, on verra bien, parce que c'est pas la première fois quand même dans l'histoire récente du mandat d'Emmanuel Macron, des deux mandats d'Emmanuel Macron d'ailleurs, qui promet des référendums. Je rappelle qu'après le mouvement des Gilets jaunes, il avait évoqué cette idée d'interroger les Français. Il avait évoqué aussi l'idée d'interroger les Français sur la question environnementale. Il ne l'a pas fait. Donc restons prudents quant à cette annonce qui, pour l'instant, est une annonce qui, pour l'instant, reste malgré tout très, j'allais dire, assez imprécise, en tout cas.
Certains envisagent, Arnaud, un référendum sur la fin de vie, dont le débat avait été ajourné, n'avait pas pu se tenir compte tenu de l'évolution de la situation politique. C'est une piste également qui vous semble envisageable?
Oui, mais si vous voulez, c'est une piste peut-être, potentiellement, pourquoi pas. Mais si vous voulez, le référendum sur la fin de vie, sur une question sociétale comme le sujet de l'accompagnement des mourants, est un sujet qui n'est pas susceptible. Évidemment, c'est un sujet sans risque pour le président de la République, quoi qu'il arrive, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la question de la légitimité du président de la République ne peut difficilement être mise en question par un référendum de ce type. Donc, on peut imaginer peut-être qu'il interrogera les Français sur ce sujet, mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il existe au Parlement, en l'occurrence, des zones de compromis possibles pour l'adoption d'un texte sur la fin de vie, même si on voit que le Sénat est un peu plus, j'allais dire, en réserve quant à ce sujet. Mais ce n'est pas un sujet qui a forcément besoin pour lequel on a forcément besoin de revenir au peuple directement pour le trancher. Le Parlement peut vraisemblablement le trancher.
Ces référendums seraient également une manière pour le président de se replacer au centre du jeu et du débat politique dans un contexte de coalition light, je mets des guillemets bien sûr.
Oui, alors c'est coalition ou cohabitation light, peut-être, mais est-ce que c'est une véritable cohabitation? Non, ce n'est pas une véritable cohabitation que nous sommes en train de vivre, parce qu'une cohabitation, ça voudrait dire qu'il existe une majorité fondamentalement différente de la majorité présidentielle. Or, ce qui existe aujourd'hui dans la coalition parlementaire, c'est une coalition parlementaire qui est une coalition où les macronistes demeurent quand même dominants. Mais après, on voit bien que c'est vrai que l'exercice auquel il s'est adonné hier est un exercice où on voit qu'il cherche sa place dans un jeu institutionnel dont il a reconnu qu'il était fortement fragilisé par l'initiative de dissolution qu'il avait prise au mois de juillet dernier. Le sujet, finalement, aujourd'hui, pour le président de la République, c'est que le gouvernement Bayrou puisse durer autant que faire se peut sans être fondamentalement exposé à une motion de censure qui viendrait à le renverser comme il a renversé le gouvernement de Michel Barnier. Auquel cas, si nous nous retrouvions dans cette situation, dans ce bis repetita d'une motion de censure en quelques mois, on pourrait considérer que la crise politique est en train de muter en crise institutionnelle. Et ses voeux, d'une certaine manière, en pointillé, essayer d'apporter des réponses. Et je les ai vus, moi, plutôt comme une forme d'expression visant à réassurer le président de la République plutôt que de réassurer les Français.
Alors Emmanuel Macron, qui s'est projeté sur le long terme hier soir avec un horizon à 2050, c'est une manière pour lui d'écarter l'hypothèse d'une démission avant la fin de son mandat ?
Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, dans le débat public, dans le débat politique, la question de son maintien jusqu'à 2027 est posée par un certain nombre de forces politiques, même si constitutionnellement, évidemment, le président de la République est totalement légitime pour rester jusqu'à la fin de son mandat. Mais il est clair que si demain on se retrouvait dans une situation de blocage, la question de son maintien serait posée inévitablement par les oppositions, et elle se poserait vraisemblablement au sein même de son propre camp, de manière certes plus mezzo voce. Mais le président de la République veut essayer de rendre utile ce qui lui reste de mandat en essayant de lancer un certain nombre de grands chantiers d'investissement qui préparent l'avenir de la France à l'horizon 2050. De ce point de vue-là, il a essayé de puiser dans une rhétorique qui est une rhétorique gaullienne.
Est-ce que c'est ce qu'avait aussi fait un peu Michel Barnier?
Ce qu'avait fait aussi Michel Barnier en tant que Premier ministre, le problème, c'est, encore une fois, on reste véritablement sur la même question. A-t-on les moyens politiques aujourd'hui de pouvoir mener une politique à long terme? A-t-on les moyens budgétaires aussi, également, de pouvoir mener une politique à long terme? Et a-t-on les moyens politiques de pouvoir résoudre aussi l'équation budgétaire? Ce sont ces trois questions qui se posent au seuil de 2025.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, un livre publié chez Michel Lafon. Bon après-midi.
Bon après-midi.
Radio J. Steve Nadjar.
C'est l'heure de marquer une première pause dans cette émission, mais on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Grand Journal. Au sommaire, le zoom sur l'actualité politique israélienne avec des divisions qui s'accentuent au sein de la coalition Netanyahou, suivi d'un gros plan sur la situation économique du pays. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. A tout de suite.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. A tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Christophe Barbier. Tous les jours, je suis Jacques Offenbach au Théâtre de Poche Montparnasse pour Offenbach et les Trois Empereurs avec Pauline Courtin et Vadim Cher. Nous sommes le 7 juin 1867. Trois empereurs viennent dîner au Café Anglais et Offenbach doit leur improviser un spectacle. Mais qui sont-ils, ces empereurs? Venez le découvrir au Théâtre de Poche tous les jours à 19h, le dimanche à 15h. Offenbach et les Trois Empereurs.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Merci d'être avec nous pour la deuxième partie du Grand Journal. Vous êtes sur Radio J. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et nous suivre en vidéo, notamment sur notre chaîne YouTube. Direction tout de suite, Jérusalem. Gros plan donc sur l'actualité politique israélienne, vous l'avez suivi peut-être avec nous en direct hier après-midi dans le Grand Journal. Cette séance de vote à la Knesset qui a failli tourner au fiasco pour le gouvernement Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a décidé, contre l'avis de ses médecins, de quitter l'hôpital d'où il se remettait d'une opération chirurgicale, et ce, pour éviter d'être mis en minorité lors d'un vote sur le budget. Le pire pour la majorité a finalement été évité. Les détails avec la revue de presse israélienne signée Olivier Granik en partenariat avec Studio Qualita.
Oui, avec Yuval Karni qui revient sur le vote à la Knesset autour de la loi des bénéfices bloqués. Une loi concernant le budget 2025 qui a été remportée de justesse par la coalition de Benjamin Netanyahou, 59 voix contre 58. Et le Premier ministre a dû quitter son lit d'hôpital pour voter après une opération accompagné de son médecin personnel. Il est donc arrivé à la Knesset et les tensions internes se confirment puisque aucun député d'Otzma et Yehudit n'a accepté de s'absenter pour équilibrer son absence. Et puis, autre moment marquant de la journée d'hier, la présence du député Boaz Bismuth en deuil de sa mère qui est venue voter malgré la période de Shiva. Ce vote, ajoute le journaliste du Yediot Ahronot, n'est qu'un prélude au défi encore plus épineux qu'attend le gouvernement, la loi sur le service militaire pour les étudiants des yeshivot.
Benjamin Netanyahou pourrait punir par ailleurs Itamar Ben-Gvir après son comportement hier à la Knesset.
Oui, selon le Israël Hayom, le Premier ministre Benjamin Netanyahou envisagerait d'exclure Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, des forums de sécurité. Ben-Gvir réclamait depuis déjà des mois une place au sein du cabinet restreint, dissous après le départ de Benny Gantz et Gadi Eisenkot. Et bien que convié à certaines discussions, son comportement divise, dit-on, dans l'entourage de Benjamin Netanyahou. Et après le vote, Benjamin Netanyahou a critiqué Ben-Gvir, appelant la coalition à surmonter ses différences sans compromettre la stabilité du gouvernement de droite, dans ce qu'il décrit comme un moment crucial pour Israël.
Économie, à présent, avec l'entrée de la nouvelle année, les Israéliens doivent faire face à une série de hausses dans différents secteurs.
Oui, tout à fait, avec le quotidien Maariv qui alerte sur une série de hausses des prix qui attendent les ménages israéliens dès janvier 2025, dès maintenant en fait, puisque la TVA est passée cette nuit de 17% à 18%, impactant donc les dépenses courantes, le carburant et l'immobilier. Les services publics ne sont pas épargnés, les tarifs de l'électricité augmentent de 3,8%, ceux de l'eau de 2%, la taxe foncière, la Arnona de 5,3%. Les transports publics subiront également une hausse avec un ticket qui passera de 6 à 8 shekels dès le mois d'avril. Et ces changements pèseront lourdement donc sur les budgets familiaux. Et selon le quotidien Maariv, une famille moyenne avec deux enfants verra ses dépenses annuelles grimper de 4 644 shekels à 5 076 shekels par mois pour une famille nombreuse.
Le Shin Bet, service de sécurité intérieure israélien, a dévoilé par ailleurs son bilan pour 2024, une année marquée par des tensions sur plusieurs fronts.
Oui, les médias israéliens analysent en détail ce rapport qui a été publié hier et qui dresse un bilan impressionnant des activités de sécurité du Shin Bet en 2024. Le Shin Bet a déjoué plus de 1000 attentats en Judée-Samarie et à Jérusalem, incluant des fusillades, des attentats suicides, des attaques à l'explosif et des tentatives d'enlèvement. Des opérations conjointes avec Tzahal ont aussi visé des zones sensibles comme Jenin et Dabluz. Et puis à Gaza, les interrogatoires de 650 détenus ont permis de neutraliser des centaines de cibles terroristes. Et puis en Israël, 20 cellules terroristes arabes et 13 cas d'espionnage au profit de l'Iran ont été démantelés, marquant une hausse de 400% de cas d'espionnage pour la République islamique. Le rapport souligne aussi l'élimination de 25 hauts responsables terroristes au Liban et des opérations réussies pour libérer les otages vivants. Une année donc marquante et intense pour la sécurité israélienne.
Et puis on en parlait, Olivier, la population israélienne a dépassé le seuil des 10 millions de personnes, une information qui est reprise ce matin par l'ensemble des médias israéliens.
Et dans un article publié aussi par le Maariv ce matin, le Bureau central des statistiques annonce donc que la population israélienne a dépassé les 10 millions d'habitants en 2024. Toutefois, le taux de croissance a ralenti à 1,1% contre 1,6% l'année précédente. Et puis la principale cause, c'est un solde migratoire négatif, près de 82 700 Israéliens ont quitté le pays, tandis que seulement 23 800 sont revenus, laissant un déficit de 59 000 personnes.
La revue de presse israélienne signée Olivier Granilic a retrouvé sur le site de Studio Qualita.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Et on poursuit notre gros plan sur la situation économique israélienne après une année 2024 marquée, vous le savez, par l'augmentation des dépenses militaires et des coupes budgétaires drastiques pour faire face aux urgences du moment. Mais le bilan demeure néanmoins globalement positif. Selon Dan Katariva, c'est le président de l'association des chambres de commerce binationales France-Israël. Il répondait ce matin aux questions d'Ilana Ferradian.
Écoutez, je dirais que le tableau finalement est relativement positif. Je parle maintenant surtout de ce qu'on appelle le tableau macroéconomique israélien. Il y a une différence entre l'économie en général et donc les données, que ce soit l'inflation, le chômage et les réserves de la Banque centrale, le déficit, tout ça, ce sont en fait les données macroéconomiques, les fondamentaux de l'économie israélienne qui finalement sont effectivement assez positifs, surtout après 15 mois de guerre. Mais il y a également l'image microéconomique qui tient en fait, je dirais, à la poche de chacun des citoyens. Là, la situation est un peu plus compliquée. Les augmentations qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui dans beaucoup de domaines vont faire que la vie en Israël va devenir encore plus chère. Et on sait très bien que déjà le coût de la vie en Israël est très cher. Et il y a effectivement le problème de beaucoup d'entreprises, surtout des petits commerces, des petits des indépendants, des professions libérales, pour beaucoup de gens qui ont passé de longues journées au Milouim. Comme vous savez, la société israélienne s'est mobilisée pour justement aider les gens à passer le mauvais cap et essayer de surmonter les difficultés. Nous ne sommes pas encore sortis vraiment de la situation. Donc au niveau microéconomique, il y a des problèmes sur le terrain pour les familles, pour les foyers. Là aussi, c'est différent entre le nord, le sud et le centre. Mais dans l'image générale de la force de l'économie israélienne, finalement, c'est-à-dire tout le monde a été surpris par la solidité, la résilience de l'économie israélienne.
Alors vous parliez aussi de vie de plus en plus chère, et on va faire le point aussi, puisque les Israéliens doivent faire face à une série de hausses dans différents secteurs, que détaille d'ailleurs ce matin le quotidien israélien Maariv. Quels secteurs ont été finalement les plus impactés par les perturbations commerciales, et lesquels ont su rebondir facilement? On parle beaucoup du secteur du high-tech notamment, qui a surpris.
Alors, écoutez, il a surpris, non, mais là aussi, l'image n'est pas claire. D'un côté, le high-tech était déjà, je dirais, en difficulté avant le 7 octobre, puisqu'il y avait un ralentissement au niveau global, il y avait une baisse dans le monde entier d'investissement dans des startups, etc. Et Israël, avec ce qui se passait à l'intérieur, avec ce que vous vous souvenez de l'incertitude et tout ce qui se passait à l'intérieur d'Israël dans le domaine de la réforme judiciaire, etc., tout ça avait déjà un impact sur un ralentissement. D'un autre côté, comme l'innovation reste toujours, je dirais, quelque chose de très important en Israël, et on a vu des secteurs comme la cybersécurité, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle, comme le domaine du food tech, qui sont des domaines qui sont porteurs en Israël. Donc là aussi, le high-tech, finalement, avec le ralentissement mondial, aujourd'hui, il y a une relance, et en Israël même aussi, on voit à nouveau des investissements étrangers venir, et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben justement, c'est le moment d'investir en Israël, puisque peut-être que les prix sont plus bas, c'est-à-dire en fait, il y a plus d'opportunités, et c'est un bon moment pour investir. Donc, on voit que le high-tech continue à être un moteur de croissance pour Israël, et donc les choses à ce niveau-là ne se passent pas trop mal. Maintenant,
h 30, merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Dans le Grand Journal, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'heure du rappel des titres. Appel des titres signés Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour. À la une de l'actualité en Israël, la réunion du cabinet de sécurité prévue demain soir a été annulée. On vient de l'apprendre. En cause, l'état de santé de Binyamin Netanyahou, épuisé après avoir quitté l'hôpital contre l'avis de ses médecins hier pour aller voter en faveur d'une loi qui a trait au budget de l'État. Et cette réunion est également annulée alors que les négociations pour la libération des otages sont au point mort. L'armée israélienne a détruit une usine de fabrication de roquettes ce matin. Des roquettes de moyenne et de longue portée ainsi que d'autres armes ont été retrouvées sur place. La brigade qui a fait cette découverte opère à Rafah sous la division de Gaza depuis un mois. L'armée israélienne et le Shin Bet ont aussi éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas, celui qui a dirigé l'infiltration dans le kibboutz de Nir Oz lors des massacres antisémites du 7 octobre. Les habitants de Nir Oz ont réagi. L'élimination de ce commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice. Une attaque à la voiture Bélier à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis dans la nuit du Nouvel An. Lourd bilan, au moins 10 morts et une trentaine de blessés. Ça s'est passé sur Bourbon Street, une artère au cœur du célèbre quartier français. La maire de la Nouvelle-Orléans vient de s'exprimer. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. La Russie a lancé 111 drones sur l'Ukraine pour le jour de l'an. 63 abattus, 46 ont manqué leur cible. Une personne a été tuée et 7 autres ont été blessés. Emmanuel Macron, lui, hier soir, a fait son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, lors de ses vœux pour l'année 2025, a reconnu que la dissolution avait semé division et instabilité.
Merci Eva, on vous retrouvera dans une demi-heure pour un nouveau journal en direct sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Mais en attendant, voici le programme de la dernière partie de cette émission. Juste après la pause, nous parlerons de géopolitique avec le spécialiste cyber Ilan Sialom. On écoutera également Rachel Kahn et le grand rabbin Bruno Fison. Le Grand Journal revient dans une poignée de secondes. A tout de suite.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
La troisième et dernière partie du Grand Journal. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. Vous pouvez nous suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Place maintenant à l'entretien de cette édition.
Radio J, l'invité du Grand Journal.
Radio J. Steve Nadjar.
Bonjour Yann Thiam.
Bonjour Steve.
Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes chercheur en géopolitique au laboratoire Géode et à l'Institut français de géopolitique. Vous êtes spécialiste notamment des questions de cyber. L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir mené un raid aérien hier contre des terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban. Un dépôt d'armes a notamment été bombardé. Tsahal qui insiste maintenir son respect du cessez-le-feu, mais promet de continuer à agir pour dissiper toute menace à l'encontre de l'État d'Israël et de ses citoyens. Fin de citation. On se trouve, Ilan Selom, 40 jours après l'accord conclu le 26 novembre entre Israël et le Liban. Est-ce qu'on peut envisager que les forces israéliennes se retirent du sud-Liban d'ici 20 jours, comme prévu dans cet accord ?
C'est tout à fait envisageable, mais à condition que les conditions liées au cessez-le-feu, à cet accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, soient maintenues, à savoir pas de force du Hezbollah au sud de cette ligne bleue, la ligne bleue qui est cette ligne qui se trouve sur le fleuve Litani, de manière à permettre notamment aux habitants du nord d'Israël de revenir chez eux, et donc aussi pour l'armée israélienne, lui permettre de se retirer derrière la frontière israélienne.
Et ce, malgré la porosité très claire qui existe entre les communautés chiites locales et le Hezbollah ?
Alors, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a un retrait des forces israéliennes qu'il n'y aura pas d'opération. Là, vous parlez d'une opération aérienne. Mmh. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de raid régulier dès lors que.
C'est ponctuel.
Voilà, tout à fait. Que l'armée israélienne considérera qu'il y a une menace imminente, que ce soit à travers des stocks d'armes trouvés. Le renseignement israélien, on l'a vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, est extrêmement pointu sur cette zone et depuis un long moment. Et donc, s'il considère qu'il y a une menace, Israël n'hésitera pas à intervenir.
Dans quelle mesure l'investiture de Donald Trump, précisément dans 20 jours, le 20 janvier prochain, peut impacter l'application et la prolongation de ce cessez-le-feu ?
On a affaire avec Donald Trump à une grande incertitude. Comment il va se comporter vis-à-vis de la situation au Proche-Orient de manière large, c'est-à-dire aussi bien sur la question du Hamas. J'entendais ce matin qu'il il y a un peu un tic-tac jusqu'à son arrivée le 20 janvier.
Sur la question de l'hypothèse d'un accord sur les otages qui serait a priori qui attendra son retour à la maison.
C'est pas du tout. Il est assez versatile. Hein, on l'a vu lors de son premier mandat. Comment il va se comporter ? Comment ça va se passer ? Donc il y a aujourd'hui, en tout cas, vu que l'administration américaine, même si c'est sous l'administration Biden, s'est investie dans cet accord, l'accord est bon. L'idée étant d'éviter un double front pour Israël, de maintenir la pression sur Hezbollah, et à ce niveau-là, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à remettre en question cet accord de cessez-le-feu, et je ne pense pas que l'administration Trump voudra changer cela.
Hier, le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, qui était de passage au Liban, affirmait que le cessez-le-feu tenait, mais qu'il était fragile. Il a également défendu l'action de la FINIL. Je le cite, l'existant a le mérite d'exister, et si ça n'avait pas existé, la confrontation entre le Hezbollah et Tsahal aurait pu être plus forte ou plus violente, parce qu'il y avait justement ces postes des Nations Unies qui observe. Ilan Selom, quel rôle les Nations Unies, la communauté internationale et en particulier la France, en particulier, peuvent-ils jouer pour assurer la stabilité de cette zone côté israélien et côté libanais ?
Aujourd'hui, on a la FINUL qui est déployée sur zone. On a une influence aussi existante, même si elle est ténue, une influence française historique sur le Liban. Tout ce qu'on peut aujourd'hui imaginer et envisager de la part de la France et d'autres acteurs sur le terrain, notamment l'ONU, c'est d'avoir ce rôle d'observation et d'observer, comme il a dit le ministre de la Défense, Lecornu, d'observer que le cessez-le-feu tient dans ses grandes lignes. Encore une fois,
pouvoir agir malgré tout.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut bien envisager que le Hezbollah, sa raison d'être, sa raison d'exister, est la lutte contre Israël. Et c'est sans cela, il n'existe pas.
Donc ça implique un réarmement à moyen terme.
Un réarmement constant. Donc c'est pour ça que la pression que maintient l'armée israélienne aujourd'hui est essentielle. Que ce soit avec des personnes, des soldats sur le terrain, soit en se retirant, mais en ayant, comme on l'a dit, des raids ponctuels. Mais le coût humain serait tellement élevé en laissant, on l'a déjà vu par le passé, en laissant des forces israéliennes dans cette zone entre la frontière israélienne et le Litani, qu'il me semble qu'on s'oriente vers des raids réguliers de la part de l'armée israélienne avec ses avions.
Ilan Selam, je le disais, vous êtes spécialiste des questions de cyber et de renseignement, et vous avez lu avec attention, comme nous, l'enquête publiée il y a 3 jours par le New York Times, une enquête qui détaille la manière dont les services israéliens ont infiltré et surveillé le Hezbollah, en fait depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006. Ce qui est frappant, c'est qu'Hassan Nasrallah considérait jusqu'à sa mort, jusqu'à les heures qui ont précédé sa mort, qu'Israël n'avait pas d'intérêt à l'éliminer. Comment Israël a constitué cette banque de données immense, cette banque de cibles contre le Hezbollah?
Alors ça s'est fait, comme vous l'avez dit, sur un temps relativement long, depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban, depuis 2006. Je vous rappelle que pendant 34 jours, Tsahal a été en guerre avec le Hezbollah, et que dans l'esprit israélien, chez les stratèges, les objectifs de guerre n'ont pas été atteints en 2006. Donc progressivement, Israël s'est reconstitué d'un point de vue du renseignement, a constitué une base en travaillant avec notamment des sources humaines, c'est important, sources humaines notamment dans la reconstruction du Hezbollah. Ils ont été chercher des acteurs au Liban qui ont constitué des caches, qui ont travaillé avec le Hezbollah. Donc ils avaient tous ces éléments-là. Pour vous donner un élément intéressant, à la fin de la Seconde Guerre du Liban, le portefeuille de cibles de Tsahal et du renseignement était de 200 cibles à peu près. En septembre 2024, au moment où il y a l'attaque des pagers, on est à plus d'une dizaine de milliers de cibles collectées qui permettent en fin de compte au renseignement et à l'armée israélienne de frapper n'importe quel acteur au Liban, n'importe quel acteur du Hezbollah évidemment, et on l'a vu donc avec l'assassinat de Nasrallah. La question finalement de l'assassinat de Nasrallah était plus une question politique qu'une question de capacité. La capacité, il l'avait. On se rend compte aujourd'hui à travers cette enquête qui a été faite par le New York Times que il y avait une connaissance très précise des lieux où se trouvaient les différents leaders, alors de la branche militaire, de la branche politique du Hezbollah, et donc ils ont pu l'activer au moment opportun.
Et on cite notamment dans cette enquête des découvertes qui ont été faites par l'unité 8200 dès 2012. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu et préciser ce qui a été retrouvé et pourquoi ça a été utile pour la suite?
Alors il y a toute une liste de grandes sources d'informations, que ce soit les caches d'armes, que ce soit les lieux où se rendaient les différents leaders des blocs, qui ont été trouvés effectivement par l'unité 8200 en 2012. À ce moment-là, quand on regarde la politique israélienne, notamment le Premier ministre Netanyahou, on est dans cette idée de frapper l'Iran. Et on a cette scène d'ailleurs qui est racontée dans le New York Times, qui dit que le chef du Mossad de l'époque dit « Ok, aujourd'hui, vous pouvez frapper l'Iran. Pourquoi ? Parce que si l'Iran, dans sa stratégie de proxy, de faire intervenir le Hezbollah dans un conflit, souhaite activer le Hezbollah, il ne le pourra pas parce que nous sommes en mesure de éliminer les différentes têtes, les différents acteurs, les hauts responsables du Hezbollah.
Et on se retrouve aujourd'hui un peu dans la même situation, toute différence par ailleurs, parce que la capacité d'action du Hezbollah était grandement diminuée par ces 2 mois de guerre.
C'était même plus que grandement diminué. Que ce soit à travers l'affaire des pagers, et là aussi cette affaire est rocambolesque, parce que ça a pris plusieurs années pour constituer des sociétés écrans, pour aller produire, acheter une licence à une société taïwanaise qui produisait ces pagers, aller les produire en Bulgarie, en Roumanie, livrer à partir de 2023 les premiers pagers au Hezbollah. En même temps, parallèlement, une campagne de désinformation de l'unité 8200 sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, attention, Israël a les capacités de pirater n'importe quel outil, des téléphones, des smartphones, etc. Donc, poussant finalement le Hezbollah à investir à la solution des pagers. Ça, c'est une première...
Manipulation psychologique.
Totalement. Et ça fait partie, en fin de compte, on voit que les actions israéliennes se font sur différents terrains. On a ensuite cette affaire des talkie-walkie qui est antérieure à l'affaire des pagers, où il y a eu aussi, dès 2014, un arrêt de production des talkie-walkie. Israël en a produit de son côté et a fourni, à travers différents systèmes, le Hezbollah en talkie-walkie piégé. Ensuite, la suite, vous la connaissez, septembre 2024, d'abord les pagers qui explosent et qui vont...
Et avant ça, Ilan Selam, il y a, et ça intervient assez tardivement, le Hezbollah qui commence à avoir certains doutes et qui envoie un certain nombre de pagers en Iran, et il faut décider côté israélien maintenant.
Tout à fait. Alors, ce que révèle cette enquête, c'est qu'à partir du 11 septembre, on se rend compte, les différentes unités qui écoutent ce qui se passe au Hezbollah se rendent compte qu'il y a des doutes, qu'on envoie des pagers sur place, et donc on va décider le 18 septembre, même pas un petit peu avant, le 17 septembre, d'activer les pagers avant que le secret soit éventé via les analyses qui pourraient être produites en Iran. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui montre finalement que il y a une profondeur du renseignement israélien dès 2006, qui va se prolonger en 2012, vous l'avez dit, en 2014, les talkie-walkie, en 2018-2019, on commence à réfléchir sur les pagers. Donc il y a un renseignement qui est extrêmement fort et surtout qui est important, je pense, d'un point de vue psychologique, c'est de rétablir la posture de dissuasion d'Israël qui a été lourdement impactée par le 7 octobre. Et j'ajoute une chose peut-être intéressante, oui. C'est qu'on observe à travers cette enquête que la priorité des services de renseignement israéliens, de l'armée israélienne, était une guerre avec le Hezbollah.
Si il y a un décalage.
Il y a un décalage entre ce qui a été investi en renseignement avec le Hezbollah et ce qui a été investi avec le Hamas. On n'a pas la même perception de la menace. On pensait que le Hamas ne pouvait pas mener une action importante sur le territoire israélien. On voit bien qu'avec le 7 octobre, les services de renseignement se sont lourdement trompés.
Israël prévient ces derniers jours, ces dernières semaines et ces dernières heures encore que les responsables houthis au Yémen pourraient connaître le même sort que les responsables du Hamas et du Hezbollah, puisqu'on parlait d'Hassan Nasrallah. Quelles sont les capacités de renseignement, dans la mesure de ce qu'on peut savoir, évidemment, Ilan Sialom, israélienne, capacité de renseignement israélienne sur les houthis et sur d'éventuelles frappes, des raids contre les leaders?
Alors, beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faible pour différentes raisons. D'abord, jusqu'à récemment, le Yémen n'était pas perçu comme un acteur de la menace pour Israël. C'est un peu l'invité surprise depuis le 7 octobre. Le Hezbollah, on le savait, le Hamas, on le savait. Les outils au Yémen, c'est quelque chose de relativement nouveau. À tel point que dans l'armée israélienne, on n'a pas de département Yémen. Il a été créé très récemment. On a commencé à enseigner le yéménite. Pourquoi ? Parce que même les vagues d'immigration juive en Israël, du Yémen en tout cas, viennent de 1950. C'est très très ancien. Donc on a besoin de reconstituer nos capacités à comprendre en Israël ce qui se passe au Yémen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les capacités à opérer.
On est à 2000 kilomètres.
Voilà. Le Yémen, c'est pas Gaza, c'est pas le sud du Liban, c'est beaucoup plus loin. Les capacités d'opérer de Sahel sont beaucoup plus restreintes. Donc l'objectif aujourd'hui d'Israël, c'est, il me semble, d'internationaliser le conflit avec les Houthis, puisque ça menace aussi la liberté de navigation et le commerce international.
Hein, notamment en mer Rouge.
Voilà, le golfe d'Aden est un secteur extrêmement important pour le commerce international. Il y a une tentative aujourd'hui de la diplomatie israélienne de sensibiliser, notamment dans les chancelleries occidentales, à ce sujet-là. Mais je pense aujourd'hui que l'objectif des Houthis est d'enfermer Israël dans une guerre d'usure. Pour une simple raison, c'est que économiquement, Israël ne tiendra pas. Lancer un drone aujourd'hui, le coût d'un drone, c'est entre 1 000 et 5 000 dollars. Pas plus. Ça couvre même pas une heure de vol avec un F-15 israélien. Donc ça ne tiendra pas. Israël ne peut pas se projeter partout. Tout l'objectif aujourd'hui, c'est de créer une coalition. Et d'ailleurs, on voit que les Américains, les Britanniques frappent aussi le Yémen. Et aussi, je pense, avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que le Yémen, les Houthis sont en guerre. Ont été en guerre avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils ont lancé des attaques à Abu Dhabi en 2022, à Riyad en 2021, et on est dans la même configuration des attaques, des missiles balistiques qui vont toucher des quartiers civils.
Merci beaucoup, Ilan Sialom, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique au laboratoire Géode et à l'Institut français de géopolitique. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr, en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.
Merci.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J. C'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Steve Nodger.
C'est l'heure de retrouver Rachel Kahn pour son bloc-notes du mercredi. Bonjour Rachel et meilleurs voeux.
Bonjour Steve, je vous souhaite tout le meilleur, rien que le meilleur.
Ça commence mal.
Ouais.
Pour vous aussi, ainsi que pour tous nos auditeurs. Vous êtes essayiste, auteur notamment du livre Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire, et récompensé il y a quelques semaines par le prix Edgar Faure. Et vous avez suivi de près, notamment, les vœux d'Emmanuel Macron, ainsi que de la plupart de nos dirigeants politiques. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Écoutez, j'en ai retenu, en fait, il y avait les vœux du président, mais il y avait aussi toutes les réactions. Et j'ai essayé, dans cette année 2025, comme dans cette année 5785, je retiens le 5, de ne tirer que le meilleur, en fait, de ces interventions. J'ai retenu le mot unité, j'ai retenu le mot fraternité. Alors, je vous avoue aussi qu'il m'a manqué, évidemment, un mot sur les otages français détenus dans les tunnels du Hamas. Il m'a manqué un mot sur Boleb Sansal. Mais malgré tout, lorsque l'on pense à ce mot fraternité et lorsqu'on pense à ce mot unité, en sous-texte, ça veut dire être debout, et notamment debout par rapport à nos fondamentaux, mais par rapport à cette bataille idéologique, qui tente de détruire nos principes républicains. C'est ce qu'a dit en sous-texte le président de la République. Et après, j'en ai retenu aussi qu'il allait donner la parole aux Français à un moment donné de l'année.
Il a ouvert la porte au référendum. Ça vous paraît aussi une bonne idée, à nouveau, de redonner la parole aux Français sur certains sujets déterminants, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Alors, on ne sait pas trop bien à quoi il faisait allusion. Certains évoquent, comme on l'a vu tout à l'heure avec Arnaud Benedetti, la question migratoire. Est-ce que ça vous semble également un sujet sur lequel les Français pourraient être interrogés ?
Je pense qu'il a entièrement raison de vouloir redonner la parole aux Français. Sauf que on a quand même des institutions, et notamment une constitution, qui ne nous permet pas de convoquer par référendum l'ensemble des sujets. Mais à mon avis, ce qu'il ressort en fait de cette volonté du président d'en revenir au peuple, au fond, c'est que le Parlement ne nous représente plus vraiment. Il y a de nombreux sujets. Je pense à la question de la lutte contre la haine du juif, la question des idéologies islamistes, la question de la laïcité, et bien nombre de sujets où la majorité des Français sont d'accord pour défendre en fait nos piliers républicains et nos fondamentaux. Je pense qu'en sous-texte, il y a ça dans les mots du président. En tout cas, je veux fortement le croire.
Vous pensez qu'il pourrait aller sur ce terrain, malgré l'opposition que ça pourrait susciter notamment au sein d'une partie de la gauche, ou de la totalité de la gauche d'ailleurs?
Je pense qu'il peut aller sur le terrain, notamment par rapport à la proportionnelle. Je pense qu'il peut aller sur ce terrain-là. Mais je pense aussi que l'exercice en lui-même des vœux et de son expression était un exercice de communication où il a fait ressentir, et notamment à l'attention des dirigeants politiques, le fait que le Parlement, dans sa forme et dans le fond, ne représentait pas en fait ce que voulaient les Français, c'est-à-dire, et pardonnez-moi du terme, un bordel qui est un peu pris comme ça par des idéologies délétères, et notamment des idéologies qui ne vont pas dans le sens de la démocratie.
Du côté de la gauche, on réclame un référendum sur le retraite, et surtout du côté de la France insoumise, un départ anticipé d'Emmanuel Macron. Je vais citer notamment le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé hier sur son compte X. Tant que la parenthèse ne sera pas fermée, le courant d'air sera pénible, il faut finir le travail. On peut s'attendre à de nouvelles tensions politiques et à ce bordel généralisé, organisé au sein de l'Assemblée nationale?
Je vais vous dire, Steve, ce qui est pénible, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est pénible depuis ces nombreux mois, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'arrive pas à digérer sa défaite, à la fois en 2017, mais aussi en 2022, et donc qui est dans une haine par rapport finalement aux Français, c'est-à-dire à l'unité nationale, une haine par rapport à la démocratie, et qu'en fait, il utilise des moyens clientélistes et des moyens éperdument violents pour tenter d'arriver à ses fins, c'est-à-dire la destitution. Moi, je rencontre énormément de gens qui me parlent surtout de la destitution de LFI, notamment par rapport à des propos qui n'ont rien à faire dans notre pays et rien à faire dans notre République.
Pour terminer, Rachel, vos voeux pour la France, pour les Français, et plus largement pour le peuple juif et pour les Israéliens?
En fait, très rapidement, quand j'avais pas beaucoup le temps de dire mes vœux, je disais avant, quand j'étais petite, je veux que tous mes vœux se réalisent, et c'était ça mon vœu. Voilà. Mais là, j'ai une pensée, évidemment, pour tous ceux que nous avons perdus cette année, nos amis, nos proches, tous ceux que nous avons perdus aussi au front, et je pense aux jeunes qui sont sur le front, les fronts, les différents fronts en Israël. Je pense évidemment aux otages que nous avons perdus de manière injuste et inhumaine, et je pense à tous les otages qu'il faut que nous puissions ramener. Alors, quelle que soit notre place, les autorités israéliennes, les militaires, mais nous aussi, à notre place de cette diaspora et d'enfants d'Israël, que nous, notamment en pensée, nous puissions les ramener avec Bezrat Hashem.
Avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec
Merci,
nous.
Steve.
On peut retrouver votre intervention, notamment sur notre chaîne YouTube, et vous lire Encore debout, La République à l'épreuve des mots, votre dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Steve.
Radio J.
Le grand journal, Steve Nadjar.
C'est l'heure de retrouver, avant de nous quitter, le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Chodesh Tov et Chanukah Sameach. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va essayer de retrouver le grand rabbin Bruno Fison qui se trouve actuellement en Israël. On me dit à la régie, menée de main de maître aujourd'hui par notre cher Alan, que nous devrions retrouver le grand rabbin Bruno Fison dans les toutes prochaines secondes. Dans moins de 5 minutes, un nouveau journal qui vous sera présenté par Eva Soto. Le grand rabbin Fison est là. Bonjour à vous, monsieur le rabbin. Et Chanukah Sameach.
Oui, bonjour.
Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de Metz et Chodesh Tov.
Un bon Rosh Chodesh. Un bon Chanukah et une bonne année aussi.
Et bonne année. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle. Et à l'occasion de la fête de Chanukah, vous vous interrogez sur l'opposition entre le monde grec et le monde juif que cette fête, vient illustrer.
Oui, absolument. La lutte des Maccabim pour la libération de la terre d'Israël est essentiellement une lutte pour l'existence même de l'identité juive. Et qu'est-ce qui nous oppose finalement aux Grecs? Le monde grec, avec sa volonté d'hellénisation, était dans le domaine du paraître. Beau, la beauté, les temples, la beauté du corps. D'ailleurs, il était insupportable pour les Grecs de pratiquer la Brit Mila, parce que c'est une atteinte au corps. Alors que le monde juif, lui, est plutôt dans l'être. Donc c'est le paraître qui s'impose à l'être. Alors on a déjà ça dans la Bible. On a
Shem et Yafet, les enfants de Noé.
Exactement. Voilà, alors c'est marqué que Yafet Elohim, le Yaf, Dieu a donné la beauté à Yafet, mais Veishkon Baol Shem, mais il a fait résider sa présence dans les temples de Shem. La spiritualité, l'être, l'essence, c'est-à-dire le but finalement de notre présence sur terre, eh bien c'est le peuple juif qui le porte. Alors que pour le monde grec, on avait effectivement cette idée du paraître, et puis aussi une religion, un polythéisme, les dieux n'étaient autres que le reflet des angoisses des hommes, donc aucune volonté d'aller au-delà de sa condition humaine. Pour le monde juif, la mitzvah nous demande de nous dépasser et d'aller vers un infini. Voilà un petit peu l'opposition entre le monde grec et le monde juif.
Il y a une forme d'incompatibilité entre ces deux civilisations?
Alors, pas tout à fait. C'est intéressant parce qu'il y a eu des périodes où, finalement, monde juif et monde grec se sont interpénétrés. Par exemple, avant l'histoire de Chanukah, peut-être un siècle avant, peut-être un peu moins d'un siècle avant, il y a eu cette fameuse traduction de la Torah en grec par les 70 sages. Ptolémée II, le roi Ptolémée II d'Alexandrie, donc a enfermé volontairement 70 sages d'Israël qui ont traduit la Torah en grec. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les 70 traductions étaient identiques, ce qu'on appelle les 70. Et on a eu finalement ici une exportation, j'allais dire, de la Torah, de la vision juive des choses vers le monde grec. Ça a été déposé dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ceci dit, et c'est là où nos Chachamim ont trouvé, nos sages dans le Talmud, ont trouvé que ce jour n'était pas finalement un si bon jour que ça, parce que finalement la Torah risquait d'être déformée par la suite, par d'autres lecteurs, par d'autres traductions, ce qui va arriver d'ailleurs, la traduction de la Septante, donc Torah en grec, en latin par Saint Jérôme. On connaît la suite de l'histoire, évidemment ça sera un autre message qui sera porté dans le monde chrétien.
Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui depuis Israël. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle. Vous conseillez également le grand rabbin de France, Raïm Korshia, et le président du consistoire central, Eli Korshia, sur les questions d'abattage rituel. On peut retrouver cette chronique sur notre site radioj.fr. Je vous souhaite à nouveau Chanouka Samer, Chodesh Tov, et vous donne rendez-vous mercredi prochain.
C'est pour les Grecs de pratiquer la Brit Mila, parce que c'est une atteinte au corps. Alors que le monde.
Radio J, 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar.
C'est la fin du grand journal, merci de l'avoir suivi, merci Alan à la réalisation cet après-midi.
Radio J.
Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi qu'en streaming sur Spotify et Deezer. À suivre, un nouveau journal présenté par Eva Soto. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le grand journal. Le grand journal. Steve Nadjar.
Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen.
Du lundi au jeudi, on se retrouve avec mes invités prestigieux pour une heure d'émotion, de fond et en forme sur Radio J. À très vite.
Radio J.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.